France Culture. La science CQFD, Natacha Triou.
Dans le monde du sport, les méthodes de dopage progressent rapidement avec des substances et des pratiques toujours plus difficiles à démasquer. Pour les scientifiques, quels sont les défis du dopage sportif ? Ce n'est pas un mal moderne, son histoire est ancienne, on en trouve des traces dès les JO antiques. Chaque année, de nouveaux dopants apparaissent sur le marché. Les innovations technologiques et progrès médicaux sont détournés de leurs applications initiales. Comment faire pour que le dopage ne rafle pas le maillon jaune ? Par ailleurs, dans le sport amateur, certains parlent même de dangers de santé publique, notamment chez les plus jeunes. Que ce soit pour fabriquer de nouveaux produits ou pour les débusquer, les sciences sont dans les starting blocks. Science et dopage, de la poudre au jeu. Philippe Levent, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin à l'Institut National du Sport, de l'Expertise et de la Performance et directeur médical des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Nous sommes en ligne avec Olivier Rabin. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur principal sciences et médecine de l'Agence mondiale antidopage. Et nous sommes également depuis ici, Montpellier, en duplex, avec Michel Audran. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes accompagné d'une belle musique, mais vous êtes surtout professeur émérite en biophysique à l'Université de Montpellier et directeur du Laboratoire national de lutte antidopage pendant 3 ans. Merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation en direct sur France Culture et merci à vous qui nous écoutez en direct ou à toute heure en podcast. N'hésitez pas à vous abonner à notre fil podcast sur l'appli Radio France et n'hésitez pas non plus à nous suivre sur Blue Sky. Tous les jours, nous postons pour vous de nombreuses ressources pour compléter votre écoute, c'est sur notre compte @sciencesqfd. Alors, quelles sont les nouvelles méthodes de dopage en développement ? Quelle est l'évolution des techniques de détection ? Et quelles sont les nouvelles sources de préoccupation ? Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. Mais on commence avec notre archive du jour. En 1955, lors du Tour de France, on se préoccupe déjà des effets du doping.
Et voici maintenant l'opinion de nos confrères sur la fameuse histoire du doping. Lélio Rigassi de Radio Sautin. Cette enquête est un coup d'épée dans l'eau. Un coureur professionnel ayant le droit de se doper sans que cela nous regarde. Je trouve regrettable que tout le monde en soit arrivé à se doper de pareille façon. Que d'autre part, un tocard, même chargé, ne deviendra pas un grand champion. Il faut absolument lutter contre le doping chez les jeunes et chez les amateurs. Guy Lapébie, le doping a toujours existé. Mais il y a une différence entre doping et fortifiant. L'organisme n'est pas fait pour un tel travail, mais comme le tour va trop vite, il faut en user. Toutefois, l'avis du médecin est indispensable. Mario Benat de Radio Monte Carlo. Pour résoudre ce problème du doping, il faut naviguer entre deux écueils. Éviter d'une part le retour d'accidents aussi graves que celui de Maléjac. Respecter par ailleurs la liberté de l'individu. On peut effectuer des prélèvements de salive sur les chevaux après une course. Un tel procédé est inconcevable, évidemment, avec des coureurs cyclistes. Robert Chapat, Miroir Sprint. Il ne faut pas généraliser et croire que tous les coureurs se dopent. Et bien sûr, chacun fait appel à ses fortifiants et même à des reconstituants. Mais où commence et finit réellement le doping ? Quoi qu'il en soit, le coureur qui, un jour, charge trop la chaudière, a l'occasion, dans les jours suivants, de regretter amèrement son excès de combustible.
Voilà, le Tour de France cycliste et sa 14e étape en 1955, diffusée sur la RDF. Olivier Rabin, comme on entendait dans cette archive, le doping, le dopage a donc toujours existé.
Écoutez, oui, on a des informations remontant même aux Jeux antiques où les athlètes à l'époque, qui étaient souvent d'ailleurs des soldats, utilisaient des méthodes essentiellement alimentaires avec dans l'esprit d'améliorer leur performance. Dans l'archive que vous présentez, qui date donc du milieu des années 50, on était à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale et il y avait déjà eu l'utilisation de stimulants, notamment la fameuse pervitine qui était utilisée par l'armée allemande pendant le Blitzkrieg. Donc on avait déjà une idée à cette époque du bénéfice que pouvaient fournir certaines substances pharmacologiques à des fins d'augmenter la performance. Pas forcément dans le sport, même si on a des traces de dopage dans le cyclisme qui remonte aux années 30, notamment avec la strychnine. Mais on était certainement, après la Deuxième Guerre mondiale, avec cette influence des stimulants et des nouveaux stimulants qui arrivaient et dont on savait pertinemment les effets sur l'organisme. Donc rien de très surprenant, si vous voulez, que déjà à cette époque, on ait des informations relativement précise sur l'utilisation de ces substances.
Philippe Levent, on entendait également dans cette archive cet aspect-là, dont on va parler aussi tout au long de cette émission, sur l'avis du médecin, à quel point cet avis est indispensable.
Oui, alors le dopage a été au début le fait d'individus. En particulier dans le cyclisme, il y avait des soigneurs et qui n'étaient pas du personnel soignant, mais qui accompagnaient les coureurs, qui les massaient et qui pouvaient donner un médicament que le coureur prenait pour aller plus vite ou pour se sentir mieux. C'est des années où il n'y avait pas vraiment de contrôle antidopage. D'ailleurs, c'est dit dans l'archive. Et on entend bien la différence entre doping, ce qu'ils appelaient doping, et alimentation. Et substitut d'alimentation. Et donc, comme le dit le reporter à un moment, on ne sait pas trop où est la frontière entre le doping et les apports exogènes de vitamines ou d'aliments particuliers.
Michel Audran, votre réaction, vous aussi, à l'écoute de cette archive?
Ben, vous savez, le dopage a existé, comme Olivier Rabin l'a dit, au temps de l'Antiquité. Je crois qu'il n'était pas interdit. Et il a réapparu avec l'apparition des Jeux Olympiques. Hein. Dès la fin du 19e, début du 20e, on a vu apparaître le dopage. Et pour rappel, une des premières fédérations à vouloir lutter contre le dopage, si je me souviens bien, c'était la Fédération d'athlétisme amateur, qui en 1928, je crois, ou par là, avait pondu un papier, mais c'était un vieux pieu parce qu'à l'époque, il n'y avait absolument rien pour détecter le dopage. Et le dopage a suivi après les progrès réalisés dans la chimie thérapeutique. Donc, au début du XXe siècle, on était sur l'extraction des alcaloïdes, l'alcool, Olivier l'a dit, la strychnine, ou à la limite, un composé de synthèse qui était la nitroglycérine. Mais après, on a eu les composés de synthèse, dont les amphétamines à partir de la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, après les produits de synthèse, les biotechnologies, la synthèse peptidique, dont le nombre de molécules n'a fait que s'accroître au cours du temps.
Ce que vous nous disiez en tout début d'émission, pour la préparation de cette émission, Michel Audran, c'est qu'on, selon vous, on n'arrêtera pas le dopage dans le sport.
Je crois que c'est humain. On aura toujours des gens qui voudront augmenter artificiellement la performance. Et ce que je crains, c'est l'apparition de jeux où le dopage serait permis.
L'apparition de jeux où le dopage serait permis, c'est en effet un projet en cours, hein, les jeux améliorés, hein, avec les millions de dollars d'investissement par Donald Trump Jr., des compétitions qui pourraient d'ailleurs avoir lieu à la fin de l'année. Olivier Rabin, là je me fais tout de suite un peu l'avocat du diable, pourquoi dépister, pourquoi, si le dopage est si inhérent au sport, si on ne peut pas l'éradiquer, quelle est l'importance en effet du dépistage?
Je crois qu'il y a plusieurs aspects. Le premier, c'est qu'il est reconnu qu'il y a des valeurs du sport qu'il est nécessaire de préserver, de protéger. Je pense que c'est non seulement l'intérêt des organisations d'événements sportifs, qui organisent des grands événements sportifs, mais c'est aussi dans l'intérêt des athlètes. Je crois qu'au cœur des règles antidopage, vous avez la notion de protection de la santé des athlètes. On a très bien vu ce qui se passait. Vous avez une archive historique. On sait très bien qu'historiquement, si vous reprenez tout ce qui s'est passé dans l'ex-Allemagne de l'Est, on a eu le suivi d'un certain nombre des athlètes qui ont été dopés. C'était un dopage d'État et pour lesquels on a pu suivre l'évolution de santé avec les effets dramatiques qu'ont pu avoir la prise de substances à forte dose. Donc, on a déjà historiquement une idée de ce qui pourrait arriver et ce qui va à l'encontre de la protection des athlètes. Je le mentionnais, les valeurs du sport. Et puis, du côté des autorités publiques, il y a un aspect de santé publique à contrôler le dopage dans le sport. Je crois que nous sommes tous conscients dans notre milieu que l'abus de substances pharmacologiques à des fins d'augmentation de performance peut être extrêmement délétère pour l'organisme. Et donc, il y a un devoir des autorités, un devoir sociétal de protéger la santé des individus et de protéger, comme je le disais, les valeurs du sport.
Voilà, les jeux améliorés où le dopage est autorisé, c'est en effet un concept dangereux et irresponsable. Côté sport amateur, Philippe Levent, il existe de nombreux rapports sur le dopage et sur son impact sur la jeunesse. Qu'en est-il?
Oui, c'est vrai, il y a de nombreuses études qui ont ciblé la jeunesse pour savoir s'ils prenaient des produits dopants ou avaient des conduites dopantes. On verra sûrement plus tard la différence. Et effectivement, c'est une population qu'il faut essayer de préserver, parce que déjà, c'est notre avenir. Et surtout, quand on regarde les courbes de licenciés en France, plus de 50% ont moins de 18 ans. Donc pour moi, c'est un aspect essentiel. On va parler sûrement de prévention. Et il faut absolument préserver cette population, d'autant qu'avec des jeux améliorés, on va se retrouver avec un manque d'équité. Pour moi, comme le disait Olivier, dans le sport, il y a des valeurs. Une des premières, c'est l'équité. C'est-à-dire qu'on peut pas avoir l'égalité en sport de haut niveau, parce qu'il y a des équipes qui seront toujours plus riches que d'autres, qui auront du meilleur matériel, des meilleures façons de s'entraîner, des meilleures conditions. Mais par contre, il faut essayer qu'il y ait l'équité. Et avec la chimie, on n'aura jamais l'équité. Peut-être que Michel pourra parler de l'affaire, ou Olivier, de l'affaire Balco, mais on avait des produits qui n'étaient pas mis sur le marché. C'est-à-dire qu'une société pharmaceutique avait inventé, mais ne réservait qu'à certains coureurs.
En tout cas, pour revenir aussi sur ces études par rapport au dopage dans la société, il y a les travaux qu'on peut citer du docteur Patrick Laure, avec cette étude menée en 1996 auprès de 2000 sportifs amateurs, professionnels, qui sont âgés de 17 à 45 ans, qui révèle que 9,5% des participants admettaient avoir recours au dopage. Olivier Rabin, selon vous, il faut considérer ça comme un problème de santé publique ?
Écoutez, c'est ce que l'on considère aujourd'hui. Oui, quand on regarde l'ampleur que peut prendre le dopage, surtout si on n'est pas dans un système contrôlé avec des règles bien établies et une éducation qui vient en support aussi. Ce n'est pas seulement l'aspect répressif qu'il faut envisager, c'est également l'éducation des individus et l'éducation des futurs sportifs ou des sportifs en herbe, j'ai envie de dire dès le plus jeune âge. Bien sûr, il faut prendre ces dimensions en considération. La proportion, elle peut varier. On a eu quand même quelques études, y compris à très haut niveau, dans des sports d'élite, où la prévalence, qu'ils appellent la prévalence, donc le nombre ou le pourcentage d'athlètes potentiellement dopés, varie énormément d'un pays à l'autre ou d'un sport à l'autre. Donc je pense que l'image n'est pas très uniforme. Il y a des sports et des pays dans lesquels la prévalence du dopage peut être relativement élevée et d'autres dans lesquels elle est quasiment nulle. Donc je pense qu'il faut garder à l'esprit cette variabilité. Et bien sûr, la prendre en compte. Et c'est ce qu'on essaie de faire à l'Agence mondiale antidopage dans les programmes d'éducation et bien évidemment avec le côté plus répressif qui vient avec les tests antidopage et les sanctions qui peuvent en découler lorsque des substances interdites sont trouvées.
Et en effet, à l'AMA, le dopage fait l'objet d'une liste qui est publiée, qui décrit les substances et les méthodes considérées comme dopantes, et la liste ne fait que s'allonger. Michel Audran, quelles sont les substances d'ailleurs à mentionner quand on parle de dopage? Quelles sont celles les plus utilisées? Comment fonctionnent les produits dopants sur le métabolisme?
Alors, les plus utilisés, si on en juge par les résultats des tests antidopage, les plus utilisés, ce sont à coup sûr les stéroïdes anabolisants. Ça représente presque la moitié des substances. Si mes souvenirs sont bons, c'est autour de 40% des substances retrouvées. Donc, c'est sûr qu'on a besoin de puissance dans la quasi-totalité de tous les sports. Après, on va trouver
Les stéroïdes anabolisants qui augmentent justement la masse musculaire
et qui est liée
à la testostérone.
Voilà. Après, on trouve curieusement, beaucoup de diurétiques. Les diurétiques, en principe, n'ont aucun effet sur la performance sportive, sauf que ce sont des substances masquantes. Ça permet une élimination plus rapide, une dilution des urines, une élimination plus rapide des substances dopantes. Après, on retrouve toujours les stimulants, mais déjà un pourcentage moindre. Et puis, vous avez les dopages, disons, plus sophistiqués, avec des hormones telles que l'érythropoïétine pour augmenter le taux d'hémoglobine, pour augmenter l'endurance.
Et le PO, en effet, oui.
D'autres hormones, comme l'hormone de croissance, vraisemblablement pour la récupération. Et puis, vous avez également des substances qui sont un peu plus délicates. Je pense aux stupéfiants et aux cannabinoïdes. Donc, il est parfois difficile de savoir si ça a été festif ou si ça a été utilisé volontairement pour augmenter sa performance.
On a aussi les bêta 2 agonistes, hein, comme la ventoline, alors... qui permet d'améliorer les capacités respiratoires à forte dose. Néanmoins, Philippe Levent, quelle différence, où commence le dopage finalement ? Parce que c'est pas parce qu'une substance augmente la performance qu'il s'agit forcément d'un dopant.
Alors maintenant, la chose est assez simple à définir. Elle est définie par rapport au code mondial antidopage. Il y a dopage quand il y a violation d'une des règles. Alors la plus connue, évidemment, c'est le fait de retrouver des produits ou des métabolites de produits interdits à l'intérieur des urines ou du sang d'un athlète. Mais il y en a 11 autres. Hein. Il y a le manquement aux obligations de localisation pour les athlètes de haut niveau. Il y a le fait d'avoir, de posséder une substance. Donc il y en a 11. Il y a le fait de ne pas vouloir aller à un contrôle antidopage. Donc maintenant la règle est très précise. Et par contre, il ne faut pas confondre avec.
Je pense par exemple à la créatine, hein, qui est des substances non dopantes qui est régulièrement citée.
Absolument. Et là, on est plus dans ce qu'on appelle les conduites dopantes, c'est-à-dire la prise de produits pour lesquels on espère avoir une amélioration, mais qui ne sont pas des produits interdits, mais qui peuvent être la voie d'entrée après pour des produits plus dangereux.
La créatine, par exemple, ce cas-là, je prends cet exemple qui est très populaire, très médiatisé. Est-ce que ses bénéfices sont surestimés ou est-ce là une molécule, un complément, c'est disponible en complément alimentaire? Est-ce que c'est quelque chose également dangereux, par exemple?
Alors, dangereux, non, sauf si on en prend des grandes quantités, puisque la créatine est de la famille des protéines, et donc elle est filtrée par le rein, et donc si on en prend beaucoup, ce sont des grosses molécules, et le rein a du mal à les excréter quand il y en a en grande quantité. Donc oui, c'est pas très bon de prendre, mais comme les régimes hyperprotidiques trop marqués que font certains athlètes. En revanche, l'histoire de la créatine vient du fait que sur une étude ancienne, sur des étudiants en éducation physique, ceux qui avaient pris de la créatinine avaient été plus performants sur du sprint. Mmh. Mais toutes les études qui ont lieu ensuite ont montré qu'il n'y avait pas d'effet sur la performance même, par contre un petit effet sur la récupération. Et c'est pour ça que la créatinine n'est pas sur la liste des produits interdits.
Et puis en effet, cette étude parue en 2003 que vous citez, il y avait un gros biais, un biais majeur, les participants n'avaient pas renseigné au préalable leur niveau d'entraînement au sprint. Donc en effet, les bénéfices de la créatine ont été surestimés. Alors quelles sont les méthodes du dépistage sportif? Quelle est l'évolution des techniques de détection? Restez à l'écoute.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
En direct sur France Culture, nous parlons de dopage. Le domaine progresse rapidement et l'arsenal antidopage doit se renforcer. Nous en parlons avec Michel Audran, Philippe Levent et Olivier Rabin. Olivier Rabin, le rôle de l'AMA est avant tout d'évaluer le potentiel dopant. Ça repose sur trois critères. Alors comment évalue-t-on justement le potentiel dopant d'un produit ou d'une pratique ?
Alors justement, vous l'avez évoqué, à l'aune de ces trois critères qui sont très précis dans le Code mondial antidopage, à savoir la potentialité d'augmenter la performance sportive, qui est l'un des critères. Autre critère, le risque potentiel pour la santé de l'athlète. Et troisième critère, ce que l'on définit comme étant la violation de l'esprit du sport, de l'esprit sportif. Et le groupe de travail ou les groupes de travail avec lesquels nous opérons à l'Agence mondiale antidopage ont sans cesse à l'esprit ces trois critères lorsqu'on évalue une nouvelle substance ou une nouvelle méthode, qu'elle soit en développement par l'industrie pharmaceutique ou des substances qui apparaissent de façon parfois illégale sur Internet. Et systématiquement, les experts avec lesquels nous travaillons et sous l'égide du département sciences et médecine de l'agence, évaluons de nombreuses substances, là encore avec ces trois critères, pour définir s'il faut considérer qu'une telle substance ou une telle méthode doit trouver sa place sur la liste des méthodes et des substances interdites dans le sport.
Alors pour le dépistage sportif, il y a deux méthodes. Il y a le dépistage indirect, le passeport biologique, ça on y reviendra. Mais d'abord, le dépistage direct. Michel Audran, sur quoi s'appuie cette méthode ?
Alors, le dépistage direct s'appuie dans 95% des analyses environ sur ce qu'on appelle le couplage chromatographie-spectrométrie de masse. C'est-à-dire, vous partez d'un échantillon, vous, à partir de cet échantillon, le plus souvent d'urine, mais ça peut être du plasma, ça peut être du sérum, vous allez faire une extraction, essentiellement pour concentrer un petit peu les substances à rechercher. Vous allez séparer ces substances par une méthode qui s'appelle la chromatographie, qui peut être gazeuse ou qui peut être liquide, elle est le plus souvent liquide, et vous allez identifier en sortie de chromatographie les substances grâce à une méthode qui s'appelle la spectrométrie de masse, voire la double spectrométrie de masse, si vous voulez, qui va vous donner en quelque sorte l'empreinte digitale, voire l'ADN de la substance. Donc c'est une méthode extrêmement sensible, extrêmement spécifique. Et ça marche pour essentiellement les molécules de petite taille et de taille moyenne. Ça marche pas encore très bien pour les macromolécules, des molécules de taille moléculaire élevée. À ce moment-là, on a recours à des méthodes immunologiques, c'est-à-dire des réactions antigènes anticorps, donc qui permettent de détecter ces substances, avec parfois une séparation préalable par des techniques d'électrophorèse, c'est-à-dire de déplacement des molécules dans un champ électrique.
Oui, ces méthodes immunologiques que vous décrivez, c'est pour les grosses molécules comme l'EPO ou l'hormone de croissance, par exemple.
Voilà, oui.
Alors, vous nous parlez d'une méthode extrêmement sensible. À quel point, justement, la spectrométrie de masse est-elle une technique sensible ?
Alors, pour vous donner une idée, il faut savoir que les laboratoires antidopage doivent satisfaire à des normes imposées par l'Agence mondiale antidopage. Et donc, les laboratoires sont soumis à des seuils minimums de détection. Et très souvent, ces seuils tournent autour du nanogramme par millilitre. Alors, nanogramme par millilitre, ça vous dit peut-être rien, mais c'est la concentration en sucre d'une piscine olympique dans laquelle vous avez jeté un carré de sucre.
Voilà, c'est
donc,
tout
vous voyez
clair,
la sensibilité de la substance. Et on est arrivé à des sensibilités telles que maintenant on commence à avoir un problème avec des contaminations qui n'ont rien à voir avec le dopage.
Oui, c'est ça le problème des contaminations qui est un problème grave pour les sportifs. Olivier Rabin, c'est aussi ce qu'on appelle l'exposition non intentionnelle.
Oui, elle est reconnue. Vous avez la possibilité d'avoir différentes situations. On est aujourd'hui, alors Michel l'a évoqué, avec des méthodologies extrêmement sensibles qui nous aident d'ailleurs à révéler quand même le dopage, notamment lorsqu'on parle de métabolites tertiaires ou quaternaires d'une substance interdite. C'est extrêmement utile. Maintenant, il est clair que en tant qu'humain, on évolue dans un monde où il y a des centaines, des milliers de substances chimiques qui nous entourent, et donc on est exposé à ces substances. Et un certain nombre de ces substances sont des substances qui sont interdites dans le cadre de la lutte contre le dopage dans le sport. Et on sait pertinemment aujourd'hui que dans un certain nombre de situations, parfois dans la consommation de viande d'un certain nombre de pays, ou même parfois, et ça a été démontré, c'est extrêmement rare, mais ça peut arriver, que des médicaments tout à fait légitimes contiennent des traces d'une substance, notamment de diurétique. Ça a été montré dans 2 ou 3 cas au cours des 10 dernières années. Et effectivement, la sensibilité des méthodes nous permet de révéler la présence de ces substances. Alors, la chance est que derrière une analyse dans un laboratoire antidopage, vous avez une gestion du résultat qui permet de mettre en évidence ces risques, mais c'est une réalité aujourd'hui qui est liée effectivement à la sensibilité des méthodes et au fait aussi qu'un certain nombre de produits, qu'ils soient alimentaires ou parfois des crèmes cosmétiques, on a eu des cas par exemple de produits solaires qui étaient dans certains pays utilisés, qui contenaient des précurseurs de substances interdite. Et du coup, c'est dans ce genre de situation que tout le travail que l'on fait en recherche ou en analyse nous permet de chercher à identifier des cas qui seraient des cas de dopage versus des cas de contamination.
En effet, consommation de viande, crème solaire, un athlète peut aussi être contaminé par la sueur, la salive, Olivier Rabin.
Alors, oui, mais c'est extrêmement rare. Je pense qu'il faut quand même voir que ces cas de contamination, d'abord, ne sont pas extrêmement fréquents. Ils existent, mais ne sont pas extrêmement fréquents. Lorsqu'on parle de contamination par la sueur, par exemple, il y a quand même relativement peu de substances qui sont transmises et sont donc des contaminants par voie cutanée. Il y en a quelques-unes et on les connaît bien évidemment. Et on a des stratégies aussi d'analyse qui nous permettent de chercher à distinguer justement ce qui serait des fins d'excrétion de substances dopantes ou des expositions non intentionnelles à des produits. Et aujourd'hui, on réfléchit beaucoup, il faut le savoir, on a plusieurs groupes de travail autour du sujet des contaminations, du dopage non intentionnel, de telle façon à voir non seulement les méthodes scientifiques que l'on peut mettre en œuvre et les investigations complémentaires que l'on peut mettre en œuvre pour mieux révéler la distinction entre des cas de dopage et des cas de contamination. Ça, c'est évident. Éventuellement, l'évolution des règles. Et puis aussi, je pense qu'il faut en être conscient, rechercher à ce qu'un certain nombre de pays mettent en œuvre des réglementations ou appliquent les réglementations existantes de telle façon à limiter ces cas de contamination. On voit, par exemple, dans un certain nombre de pays, notamment d'Amérique latine, où l'utilisation des promoteurs de croissance est très large pour notamment la croissance de la viande, du bétail, et pour lesquels les normes d'abattage des animaux ne sont pas toujours respectées, ce qui fait au final qu'on retrouve des viandes qui sont fortement contaminées là où en fait elles ne devraient pas l'être. Donc je pense qu'il y a aussi un travail de réflexion et d'obligation, on revient à l'aspect de santé publique aussi, qu'on révèle en général assez aisément au travers des analyses antidopage, justement par la qualité du travail que l'on met en œuvre, et notamment dans les laboratoires accrédités, mais également, ce sont souvent des substances auxquelles des populations relativement larges sont exposées et que nous, on prend aussi sous l'angle de problèmes de santé publique.
C'est en effet un problème pour les sportifs, puisqu'ils sont tenus responsables de ce qui est entré dans leur organisme, volontairement ou non. Autre méthode de dépistage, ce dépistage indirect qui est le passeport biologique. Alors ça, c'est pour les athlètes d'élite. Ça a été développé à partir des JO de Turin en 2006, lorsque les experts ont repéré quelques variables biologiques anormales. C'est devenu un outil utilisable depuis 2009. Michel Audran, en quoi ça consiste ?
Ça consiste à suivre des biomarqueurs de la prise d'une catégorie de substances. Alors, dans ce passeport biologique de l'athlète, vous avez trois modules. Module hématologique, donc qui va permettre de dépister la prise de substances qui vont agir sur l'augmentation du transport de l'oxygène. Pour faire simple, vous avez un module stéroïdien donc qui va permettre de détecter la prise ou de soupçonner la prise de stéroïdes anabolisants, particulièrement ce qu'on appelle les stéroïdes anabolisants d'origine exogène, c'est-à-dire les mêmes molécules que vous avez dans votre organisme, mais qui sont des produits de synthèse. Et puis tout dernièrement, vous avez un module qui permet de détecter la prise de substances de l'hormone de croissance et de ses analogues. Et donc, on a des biomarqueurs qui sont suivis de façon aléatoire au cours du temps. Et ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, ces biomarqueurs sanguins, par exemple, enfin, pour chaque valeur d'un paramètre sanguin, vous avez des normes de, comment dirais-je, un intervalle de normalité. Vous savez que votre hémoglobine, elle est entre telle valeur et telle valeur. On a un programme qui permet, au bout de quelques mesures, de passer de l'intervalle normal pour un paramètre de valeur de population à l'intervalle de normalité de l'athlète, qui est beaucoup plus étroit. Et de cette façon, on peut voir s'il y a des variations anormales de certains de ces biomarqueurs au cours du temps.
Alors ça, c'est ça l'avantage de cette méthode, Olivier Rabin, c'est que c'est l'individu qui est son propre témoin. On utilise les propres valeurs de l'athlète comme référence.
Michel l'a très bien décrit. Je pense que c'est aussi l'un des énormes avantages de cette approche, c'est d'avoir l'individu comme étant sa propre référence biologique et de suivre les données au cours du temps. Ce qui est assez logique, et Philippe sait très bien dans une approche médicale, lorsque vous avez une prise de sang avec votre médecin généraliste, non seulement il va regarder les valeurs intrinsèques de votre prise de sang, mais va très certainement comparer à vos prises de sang précédentes, ce qui permet d'avoir une perspective dans le temps de l'évolution de certaines de ces variables biologiques. Et c'est ce que l'on recherche aussi, de telle façon à mieux révéler les prises éventuellement de substances dopantes qui peuvent avoir un effet sur les variables biologiques d'intérêt pour nous.
Alors comment justement trouver des biomarqueurs pertinents? Comment bien s'assurer que ce qu'on détecte est bien lié au dopage, Olivier Rabin?
Alors ça peut être relativement simple. Lorsque l'on parle par exemple, et Michel l'a évoqué, des variables sanguines, il y a des variables qui sont extrêmement bien connues, comme la concentration en hémoglobine ou les réticulocytes, qui sont ces globules rouges immatures que l'on retrouve dans le sang et qui sont en proportion beaucoup plus élevée pour une personne qui est sous l'influence d'érythropoïétine, par exemple. Et ça peut être parfois beaucoup plus compliqué lorsqu'on parle de l'hormone de croissance, par exemple. Il a été extrêmement compliqué et très coûteux, d'ailleurs, d'identifier des biomarqueurs relativement fiable. Et aujourd'hui, on travaille sur des nouvelles méthodologies qui nous permettent d'identifier des biomarqueurs. Et c'est ce qu'on appelle notamment des approches génomiques ou protéomiques, voire métabolomiques, qui nous permettent d'identifier ces biomarqueurs et ensuite de voir non seulement leur pertinence pour révéler le dopage sans être affecté par des facteurs interférents, et ensuite notre capacité à les mettre en œuvre dans les laboratoires antidopage, parce que toutes ces méthodologies ont un coût et il faut que ces méthodologies soient supportables par le système antidopage, et notamment les coûts ou les budgets qui sont alloués aux tests antidopage.
Comment fonctionnent justement ces laboratoires antidopage? Comment se déroule un contrôle? Quelles sont les méthodes appliquées? Restez à l'écoute. De France par les vulves assassines en direct sur France Culture, car nous parlons de dopage et des méthodes de détection. On en parle avec nos trois invités du jour. Philippe Levent, médecin à l'INSEP et directeur médical des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Olivier Rabin, directeur principal sciences et médecine de l'Agence mondiale antidopage. Et Michel Audran, professeur émérite en biophysique à l'Université de Montpellier et directeur du laboratoire national de lutte antidopage pendant 3 ans. Alors, durant les JO et Paralympiques 2024, un laboratoire a pris en charge l'analyse intégrale des échantillons d'athlètes pour détecter des cas de dopage. On en parle dans le reportage du jour et c'était avec vous, Céline Lozen. Bonjour.
Bonjour Natacha.
Vous êtes entrée dans ce laboratoire à l'Université Paris-Saclay pour observer comment les équipes se sont mobilisées pour répondre à ce défi colossal.
Et oui, aux côtés de Magali Delia, secrétaire générale, et Alexandre Marchand, chef de section biologie, nous avons pu retracer le parcours type d'un échantillon depuis sa réception dans les scellés et jusqu'à l'analyse dans les salles d'expérience. Alors ici, les équipes ont criblé environ 6000 échantillons de sang et d'urine durant la période des Jeux Olympiques et Paralympiques grâce à des expertises et techniques innovantes, car dans cet effort, il faut sans cesse améliorer les tests pour s'adapter à l'évolution perpétuelle des nouveaux produits dopants.
Donc là, c'est l'entrée principale. Il faut savoir que comme c'est un bâtiment à usage un peu spécifique, chaque entrée est dédiée à un flux. Donc là, vous avez l'entrée qui est dédiée à l'entrée des personnes. C'était le cas pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Donc si vous voulez, on va commencer la visite comme un échantillon antidopage.
Donc donc Alexandre Marchand, je suis adjoint au directeur et puis responsable d'une partie des analyses du laboratoire en management, supervision, du coup, de l'aspect, une partie pré-analytique, une partie post-analytique et puis une partie des analyses.
Alors on va commencer, comme je vous disais, on va suivre le flux d'un échantillon.
Quand on dit échantillon, ça peut être de l'urine, du sang, d'autres tissus biologiques.
Alors on travaille que sur deux matrices, donc la matrice urinaire qui est la matrice principale parce qu'elle est moins intrusive pour le sportif. Et on travaille aussi sur des matrices sanguines, donc soit du sérum, maintenant on est accrédité depuis l'année dernière pour une matrice qui s'appelle une goutte de sang séché, ou un DBS en anglais. Exactement. Donc par capillarité, en fait, ça permet d'avoir une goutte de sang qu'on peut analyser. On cherche notamment des esters de stéroïdes dessus. Et là, il y a le SAS, du coup, par lequel arrivent les échantillons.
Alors nous, on reçoit directement des boîtes qui sont scellées. Donc nous, on va déceller à réception.
Tous les échantillons sont anonymes. On ne connaît pas l'identité du sportif ni aucune donnée personnelle. On connaît uniquement le genre du sportif et la discipline qui est pratiquée. Donc là, vous avez un exemple de boîte d'acheminement. Donc, c'est des petites boîtes comme ça où il y a des serflex qui montrent que c'est scellé. Et puis, chaque prélèvement, il y a deux petits flacons, le A et le B. On ne travaille que sur le A et le B est mis dans des chambres froides.
En témoin ou en référence.
Exactement. Et s'il y a une contestation sur l'analyse qu'on a fournie, l'athlète ou son représentant peut venir assister à l'ouverture et à l'analyse de l'échantillon B. Donc là, on va passer dans l'espace logistique. Donc, c'est la pièce dans laquelle on reçoit et on ouvre les échantillons. Et on va leur attribuer un numéro dans notre système informatique interne, donc ça, qui isolera complètement l'échantillon de la référence qui avait été envoyée par le préleveur. Donc là, vous avez mes collègues qui travaillent à la logistique. Donc là, c'est les machines que vous voyez en jaune, par exemple, ou là en blanc, qui servent à déceler les échantillons.
Surtout que ça garantit aussi l'impossibilité de pouvoir, en cours d'acheminement, avoir quelqu'un qui éventuellement va ouvrir un flacon pour soit y mettre quelque chose ou jeter l'urine qu'il y a dedans et la remplacer par autre chose. Donc voilà, ça participe au fait que nous, on vérifie à l'arrivée des échantillons qui sont bien scellés.
On va vous montrer du coup les appareils de biologie. Là, les locaux sont en configuration telle qu'ils étaient pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris.
Alors voilà, il faut s'imaginer, là c'est relativement calme, mais l'été dernier ça devait fourmiller, grouiller dans un flux tendu.
Oui, l'été dernier c'était 400 échantillons qui arrivaient par jour.
Vous avez eu des renforts ?
Oui, on a une soixantaine de renforts pendant les Jeux, essentiellement des personnels qui venaient d'autres laboratoires antidopage accrédités.
Donc là, on a une partie d'analyse de sang. Ensuite, on a une partie qui est dédiée plutôt aux analyses d'urine. Donc sur tous les urines, on a des tests qu'on va faire. À chaque fois, on va mesurer le pH, la densité urinaire, puisque ça nous permet aussi d'ajuster éventuellement un peu les préparations pour être dans les meilleures conditions possibles, pour identifier le plus possible des substances qui sont recherchées, qui sont à surveiller. Et puis donc après, on a des dosages hormonaux. Donc là, ça va plutôt être pour aller vers des substances qui peuvent être présentes dans le corps, mais à des taux qui doivent être normaux, enfin en tout cas qui sont normaux jusqu'à un certain point. Et puis quand ça dépasse une certaine norme, qui vont là aussi du coup être incompatibles avec les variations normales du corps humain et donc correspondre sans doute à un dopage. Donc après, à nous de prouver qu'effectivement, donc encore une fois, par une méthode de confirmation, on vérifie qu'on est bien en présence de quelque chose de complètement anormal. Et donc on peut aller plus loin en fait dans le cas. Donc là, en fait, on est sur le bout de la chaîne. C'est-à-dire qu'au départ, on partait de l'échantillon. Ensuite, il y a toute la partie préparation qui se fait dans les salles qui étaient plutôt de l'autre côté. Et ensuite, donc, on part sur ces screenings en spectrométrie de masse qui sont des screenings à large spectre. C'est-à-dire qu'on va être en capacité de détecter à chaque fois plusieurs dizaines, centaines de petites molécules qui sont donc justement parties de ces fameuses cibles de la liste des substances et méthodes interdites. Et donc ça marche par des séparations, donc en chromatographie, soit en phase liquide, soit en phase gazeuse, donc en se mettant toujours dans les bonnes conditions pour avoir donc, les différentes molécules qui petit à petit vont arriver devant le détecteur de l'appareil en spectrométrie de masse et en fonction justement des conditions de caractérisation qu'on a mis au préalable, qu'on a validé pour dire ok, à ce niveau on a un pic qui correspond à cette molécule, on peut déterminer donc présence ou absence, en fonction de l'absence d'un pic, à l'endroit où on l'attend, de la molécule interdite.
Il y a un examen en cours, là ?
Alors là, il y a pas.
C'est les cartes de contrôle pour voir s'il y a une substance qui se détecte.
Donc c'est un des gros travaux du laboratoire, c'est la lecture des résultats. Donc il y a des projets pour que l'intelligence artificielle puisse aider justement à ce dépouillage de tous ces résultats pour peut-être essayer de mettre en avant juste les résultats les plus suspects qui seront revérifiés par les scientifiques du laboratoire. Donc ça c'est en cours de mise en place, on espère gagner comme ça à terme
du temps.
Ouais. Pour se consacrer aussi tout le reste de notre travail, c'est la partie donc de recherche qui est importante, puisque comme on l'a dit, le dopage ça évolue et donc on doit constamment se remettre à jour. Chaque année, il y a de nouvelles molécules interdites qui intègrent du coup la liste des substances et méthodes interdites. On a une surveillance aussi, un suivi sur les nouveaux médicaments. À partir du moment où ça pourrait éventuellement être détourné sur un effet intéressant, tout ce qui est en général les drogues, les nouveaux médicaments pour lutter contre les anémies, pour lutter contre les pathologies de dégénérescence musculaire, on sait que ça peut très vite être détourné dans l'autre sens par des sportifs pour essayer de gagner en performance. Donc à nous de mettre en place de nouvelles méthodes d'analyse et de nouveaux tests pour justement les surveiller et limiter l'intérêt des sportifs à aller dans cette direction.
Merci Céline Lozen. Tous nos reportages en immersion sont à retrouver en podcast dans la collection La Science au Labo sur l'appli Radio France. Philippe Levent, durant la quinzaine olympique de cet été, plus de 4150 sportifs ont été contrôlés, 39% des athlètes. Comment sont-ils contrôlés ? Est-ce que c'est pas aléatoire le choix qui est fait ?
Alors le choix n'est plus aléatoire et sûrement Olivier pourra compléter mon intervention. Déjà au niveau des pays qui ont été contrôlés, dans le top 5, il y a USA, France, Chine, Australie, Grande-Bretagne. En fait, ce sont les grosses délégations, les pays qui ont le plus d'athlètes. Et au niveau des sports, ça a été athlétisme, natation, cyclisme, aviron, lutte, canoë, boxe, haltérophilie. Donc on voit qu'il y a quand même un ciblage. Il y a des sports qui sont moins contrôlés que d'autres. Mais peut-être, Olivier, tu pourras parler des critères qui font que vous choisissez tel ou tel sport pour les contrôles. Et ce qui est important de dire, c'est que même pendant les Jeux où on fait beaucoup de contrôles sur les compétitions, parce que y a une obligation réglementaire, il y a eu quand même 34% des contrôles qui ont été faits hors compétition.
Par rapport à ce qu'on vient d'entendre également, Michel Audran, je vous passe la parole parce que là on entendait des méthodes de détection pour débusquer des substances interdites, mais on a aussi des méthodes de dopage qui restent indétectables.
Alors oui, on a des méthodes de dopage indétectables. La première, c'est la transfusion sanguine autologue. Ça fait des années qu'on travaille dessus, mais sans résultat probant jusqu'à maintenant. Si ce n'est via le passeport hématologique, mais c'est pas du 100%.
Mais alors, à quoi ça sert justement, aussi, je me permets, à quoi ça sert de transfuser son propre sang?
Ben, ça sert à augmenter, avant une compétition, sa masse d'hémoglobine. L'hémoglobine transporte l'oxygène du poumon au muscle. Plus vous fournissez de l'oxygène au muscle, mieux il fonctionne et plus longtemps il fonctionne. Donc c'est excessivement intéressant pour les sports d'endurance.
Oui, allez-y.
L'autre problème dans le contrôle antidopage, il y a deux autres problèmes majeurs. L'un est celui, je l'évoquais tout à l'heure, des stéroïdes qu'on appelle pseudo-endogène, testostérone, ses précurseurs, voire son métabolite principal. Ce sont des produits qui existent dans notre organisme et qu'il est très difficile de différencier des produits de synthèse. Alors, pour le cas des stéroïdes, on a en fait une méthode qui permet de le faire, mais une méthode qui est très compliquée, très chère et qui est généralement pas utilisée. En tout cas, du temps où je travaillais, n'était pas utilisée pour le screening. Et après, on a un troisième problème qui a été évoqué tout à l'heure, c'est les designer drugs. Ces médicaments qui sont modifiés, un groupe chimique juste modifié, pour avoir un effet supposé comparable aux médicaments qu'on a copiés, mais qui va pas être détecté lors du contrôle antidopage parce que lors des contrôles antidopage, on fait du dépistage ciblé, c'est-à-dire qu'on ne détecte que ce qu'on recherche. On ne peut détecter que ce qu'on recherche.
En effet, c'est une technique qui peut identifier que des molécules connues. Olivier Rabin, pour les JO de Londres, 10 ans après, avec une nouvelle technique d'analyse, on a trouvé 73 cas de dopage supplémentaire aux 5 cas trouvés au moment des Jeux. Est-ce qu'il est possible qu'on trouve autant de cas de dopage rétrospectivement avec les JO de Paris ?
Écoutez, j'espère pas, mais l'expérience me permet de rester relativement prudent sur des affirmations de cette nature. Je pense qu'à Londres, on avait quand même un contexte un peu particulier. Le premier, c'est qu'on était dans une phase, pour ceux d'entre nous qui avons été impliqués dans le dossier russe, on a quand même révélé, alors ça n'a pas été qualifié de dopage d'État, mais plutôt de dopage institutionnel en Russie. On était post-Jeux de Vancouver où les équipes russes avaient gagné très très peu de médailles. Ça avait été des Jeux extrêmement décevants pour eux. Et il y a eu, on le sait maintenant rétrospectivement, on l'a mis en évidence, ce programme de dopage institutionnalisé qui s'est mis en place probablement justement à partir des années 2010-2011. Donc, on était dans un contexte un peu particulier, on l'a révélé depuis, pour les Jeux de Londres. Et puis, il faut quand même le reconnaître, c'est qu'aux Jeux de Londres, le laboratoire antidopage s'était tenu au seuil limite, je dirais, officiel pour détecter certaines substances, et notamment le turinabol oral, qui est une des substances qu'on a retrouvées dans nombre de cas qui ont été révélés post-Jeux olympiques. Et justement, ça a été aussi le progrès des analyses, de rendre des analyses beaucoup plus sensibles. Je pense qu'une partie de ces cas aurait peut-être pu être révélée en temps réel lors des Jeux olympiques de Londres. Mais ça n'a pas été le cas, et c'est le bénéfice de pouvoir conserver les échantillons pendant une période de 10 ans pour appliquer des méthodes plus sensibles ou plus ciblées sur certaines substances en fonction des informations que l'on peut collecter par la suite.
Alors ces méthodes plus sensibles, plus ciblées qui sont actuellement en développement, on va y arriver dans quelques instants. Mais d'abord, Michel Audran, peut-être parler des nouvelles formes peut-être de dopage avec notamment ce qu'on appelle le dopage génétique. Alors rien n'a été relevé jusqu'à aujourd'hui, mais par exemple l'AMA s'y prépare depuis un certain temps, c'est une source de préoccupation. On voit que cette technique se développer aux États-Unis. Michel Audran, on parle aussi de transfert de mitochondries.
Alors oui, je le disais tout à l'heure, hein, le dopage a suivi les progrès réalisés dans le domaine de la chimie thérapeutique et de la médecine en général. Donc, parmi les nouvelles techniques, il y a la thérapie génique. Hein. Pour faire simple, parce qu'il y a plusieurs méthodes, mais ça consiste à injecter le gène de la production de telle ou telle protéine. On va prendre un exemple. Je prends le gène de l'EPO, je l'injecte dans mes muscles, au niveau de la cuisse, du bras, peu importe, et je vais faire fabriquer de l'EPO par mes cellules musculaires, alors qu'elles n'en fabriquent pas normalement. Et donc, ça sera théoriquement de l'EPO endogène, difficile à détecter. Voilà. Alors, il se trouve que jusqu'à présent, la thérapie génique fonctionne bien chez l'animal. Je suis pas sûr, mais Olivier peut-être me contredira, que ça marche aussi bien chez l'homme et que ce soit possible de passer aussi facilement chez l'homme. N'empêche que si, je dis pas de bêtises, on a récemment trouvé sur Internet à la vente des flacons contenant le transgène de l'EPO. Donc ça, c'est une possibilité. Alors, pas que pour l'EPO, hein, il y a pour d'autres hormones de croissance, par exemple, dont on parlait tout à l'heure, des hormones qui augmentent la capillarité à l'intérieur des muscles, donc meilleure circulation sanguine à l'intérieur des muscles, etc. Après, je ne sais pas ce qu'on peut faire également avec la méthode CRISPR, ces ciseaux qui permettent d'aller faire des modifications directement sur les gènes. Et puis, je dirais plus récemment, mais en fait, ce n'est pas si récent que ça, il y a des expériences qui ont été faites chez les rats où on a injecté des mitochondries de rats jeunes dans les muscles de mitochondries de rats vieux et qui se sont mis à courir comme des rats jeunes. On a refait l'expérience en prenant des mitochondries de rajeunes, sur des rajeunes, en les injectant dans leurs muscles des pattes. Et ces rajeunes se sont mis à courir à des vitesses telles que le tapis roulant sur lequel on faisait les expériences pouvait pas suivre la vitesse des rats. Donc, est-ce que ça, à terme, ça pourrait être détourné vers des fins de dopage? C'est une possibilité. Et puis, autre chose aussi, on fait beaucoup de progrès dans la chimie des... on passe parce que le mot revient pas.
Ça vous reviendra peut-être, ouais. Mais en tout cas, je me tourne vers Olivier Rabin par rapport justement à ces expériences, à ces transferts de mitochondries sur des rats dopés qui courent plus vite que leur tapis de course.
Écoutez, oui, alors les méthodes de dopage génétique, on s'y intéresse beaucoup depuis une vingtaine d'années maintenant. On a même développé des méthodes de détection et on continue à discuter de capacités de détection de ces différentes formes de dopage génétique. Il y en a plusieurs. Michel a évoqué l'approche du transgène. On a évoqué aussi l'édition génique. En fait, avec CRISPR-Cas9, on pourrait évoquer aussi les ARN messagers. Tout ça fait partie de ce qu'on appelle le dopage génétique. Et on s'intéresse à toutes ces méthodologies, bien sûr. Et il y a aujourd'hui des méthodes d'analyse que l'on étudie de telle façon à voir si on peut les transférer dans un contexte d'antidopage. Donc, c'est un sujet qui nous intéresse et nous préoccupe de très près. D'autant plus, Michel l'a évoqué, qu'on a aujourd'hui des thérapies géniques qui sont extrêmement efficaces, certaines même en première ligne en clinique, en application clinique. Donc, ça prouve le progrès qui a été fait en thérapie génique. Et puis aussi, il faut le voir, on a ce qu'on appelle des biohackers, qui sont des gens qui vous manipulent des gènes dans leur garage ou dans leur cuisine, et dont on sait certains l'ont administré chez des humains. Donc, la menace existe, elle est probablement plus réelle que jamais. On s'y prépare, on s'y est préparé, et on continuera à s'y préparer avec des méthodologies extrêmement performantes que l'on peut d'ores et déjà appliquer aujourd'hui sur certains échantillons.
Et pour conclure, on peut également évoquer ensemble, Michel Audran, les progrès du côté des technologies antidopage. Évidemment, l'IA qui va pouvoir nous venir en aide dans la lutte antidopage, par exemple, en identifiant ces designer drugs qu'on a évoqués il y a quelques instants. Mais on a aussi des méthodes qui sont développées dans le but d'utiliser des biomarqueurs indirects du dopage, les méthodes omiques, pour conclure, Michel Audran.
Oui, Olivier y a fait allusion tout à l'heure. Oui, les méthodes omiques. Les méthodes omiques, elles ont... un inconvénient, c'est qu'elles sont également très sensibles à l'environnement. Donc, pour cibler réellement sur le dopage, c'est jusqu'à présent un petit peu difficile. Mais vous parliez de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle serait d'une aide importante pour la lecture des passeports biologiques, certainement. Et puis, d'une manière plus générale, mais Olivier en parlerait mieux que moi, en fait, on a des tas de renseignements sur les athlètes de haut niveau. Hein. On sait où ils vont se préparer, dans quel pays. Et en mélangeant toutes ces données de préparation à droite, à gauche, l'évolution de la performance et les modifications du passeport biologique, on devrait arriver à un ciblage beaucoup plus efficace des tricheurs.
Bien, merci. Là, tout de suite, on retrouve la chronique d'Alexandre Morales. Mais merci Michel Audran, merci Philippe Levent et merci Olivier Rabin. On quitte le sport, on reste dans les sciences et on vous parle de l'accouplement de pieuvres. C'est la chronique avec science.
Les mâles pieuvres à anneaux bleus droguent-ils leurs femelles pendant l'accouplement ? Aujourd'hui, mon œil a été attiré par une publication parue dans Current Biology et qui a été beaucoup relayée dans les médias plus généralistes. Elle postule que les mâles pieuvres à anneaux bleus envenimeraient les femelles au moment de l'accouplement pour éviter de finir en casse-croûte. Le cannibalisme sexuel, c'est donc une pratique qui consiste à dévorer son partenaire après l'acte sexuel. On la retrouve chez certaines espèces du monde animal et la plus emblématique, évidemment, l'enfant, c'est la menthe religieuse. Chez les céphalopodes, le groupe auquel appartiennent les pieuvres, on retrouve à peu près 34 espèces cannibales. Mais le cannibalisme spécifiquement sexuel est bien moins documenté et semble loin d'être aussi systématique que chez la menthe. On en comprend donc assez mal les raisons. Laure Bonneau-Ponticelli est professeure au laboratoire Boréa du Muséum National d'Histoire Naturelle. Elle est spécialiste des céphalopodes.
Chez les céphalopodes, on ne sait pas du tout si c'est une caractéristique d'une espèce donnée avec une reproduction systématique de ce comportement de cannibalisme sexuel ou si ça a été observé de manière, je dirais pas anecdotique, mais voilà, on ne peut pas faire une généralité. Au moment de la reproduction, au moment où le mâle est mature, il y a un des bras qui va se transformer de manière à ce qu'il y ait une sorte de petite gouttière qui permette l'acheminement des spermatophores, qui sont des petits sacs à spermatozoïdes, jusqu'au bout du bras. Et le bras, en fait, va être introduit dans la femelle. Si l'animal est petit, il va pas faire du face-to-face, il va plutôt se mettre en latéral et mettre son bras dans la cavité paléale de la femelle.
Pour ce qui est de l'espèce qui nous intéresse aujourd'hui, la pieuvre à anneaux bleus, on sait également qu'elle est capable d'inoculer à ses proies, grâce à sa morsure, un produit neurotoxique mortel, la tétrodotoxine ou TTX. C'est celle qu'on retrouve notamment dans le poisson fougou, vous savez, ce fameux poisson qui gonfle. Le problème, c'est que les chercheurs comprennent encore mal pourquoi l'évolution a sélectionné un venin chez cette pieuvre aussi, alors que d'autres espèces se maintiennent parfaitement sans. Et dans cette étude, les scientifiques se sont demandé si la tétrodotoxine ne pourrait pas être une manière d'anesthésier les femelles. Ils ont donc observé en laboratoire l'accouplement de 6 couples de pieuvres et ils ont remarqué que les mâles immobilisaient et mordaient les femelles. Ensuite, ces dernières avaient un comportement bizarre, elles devenaient pâles, leurs pupilles cessaient de répondre à la lumière et surtout, leur respiration s'arrêtait durant plusieurs minutes. Alors, est-ce que ça veut dire que les mâles pieuvres pratiquent la soumission chimique? Bien sûr, c'est la conclusion qu'on est tenté de tirer de cette étude, ce qui explique peut-être sa large diffusion dans les médias. Mais malheureusement, les choses sont plus compliquées et l'étude comporte quelques angles morts pourtant essentiels.
Peut-être qu'il aurait fallu aussi tester s'il y avait des récepteurs à la TTX chez les céphalopodes. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'ils produisent la TTX qu'il y a des récepteurs à la TTX. Est-ce que les céphalopodes, les pieuvres à ligne bleue, sont sensibles elles-mêmes à la TTX ou est-ce qu'elles n'utilisent la TTX avec leur glande salivaire que sur des proies qui ont finalement les récepteurs à la TTX? Ils auraient pu aussi tester la TTX sur, par exemple, un petit juvénile de pieuvre. Déjà, voir est-ce que c'est un anesthésique. Je dis des juvéniles parce qu'évidemment, on ne peut pas faire des bains de TTX, hein. C'est quand même hyper dangereux. C'est un petit peu les limites de la manip et de l'utilisation de ce poison hyper violent. Peut-être que c'est pour ça qu'ils ne l'ont pas fait d'ailleurs. Il faut quand même des labos et des précautions qui soient monstrueuses. Et puis le dosage physiologique, métabolique aurait dû être fait.
Et oui, toute l'étude se fonde sur l'interprétation du comportement des femelles, ce qui a bien sûr ses limites puisque deux événements qui se produisent en même temps sont une corrélation, mais il faut plus de preuves pour établir un lien de cause à effet. Et si je vous parle aujourd'hui de cette publication dont les conclusions peinent à convaincre, c'est parce qu'elle a été beaucoup relayée. Parfois, la machine médiatique s'emballe sur des sujets qui peuvent trouver écho dans l'actualité, mais être scientifique, c'est être critique sans tomber dans un relativisme absolu. La science se construit par l'accumulation de preuves jusqu'à l'élaboration d'un consensus. Ici, on comprend donc que c'est une étude incomplète dont on ne peut pas tirer des conclusions solides, mais qui pourra peut-être à l'avenir être validée par d'autres équipes.
Merci à Alexandre Morales pour cette chronique quotidienne et merci à vous pour votre écoute. Et merci à toute l'équipe de la Science CQFD. Ève Etienne, Céline Lozen, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Lou Angers, Antoine Beauchamp, Loïc Dutoit. À la réalisation, Olivier Bétard, à la technique aujourd'hui, Élise Leu. Vous pouvez nous écouter partout, à toute heure, en podcast, sur franceculture.fr ou sur l'appli Radio France. Nous suivre sur Blue Sky, à Science CQFD. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.